11h sur Radio Campus Tours, c'est la Méridienne. Nouvelle émission en partenariat avec la MSH, la Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire. Aujourd'hui, notre invitée est Sophie Caratini. Sophie Caratini est directrice émérite au CNRS et spécialiste des sociétés nomades du Sahara occidental et plus particulièrement de la tribu Rgebat en Mauritanie. Elle présente ici la réédition de « Les enfants des nuages » publiée sous la direction de Thierry Marchès par les éditions du Seuil en 1993, récit de sa rencontre en 1974-1975 avec les Maures de Mauritanie et du Sahara occidental. Cette nouvelle édition, revue et augmentée, correspond à la version intégrale du manuscrit originel. Voyage initiatique autant que témoignage d'événements historiques avec, en filigrane, le portrait d'une science méconnue et essentielle, pourtant, l'anthropologie. L'ouvrage qui se lit comme un roman, pour plaire et instruire, et ne manquera pas d'enthousiasmer les lecteurs de Titayana, Alexandra David-Nel ou encore de Gertrude Bell. Sophie Caratini est l'autrice de nombreux ouvrages tout public, par exemple « Les non-dits de l'anthropologie » aux éditions Thierry Marchès, « La fille du chasseur » toujours aux éditions Thierry Marchès, « La fille du chasseur » raconte le destin extraordinaire d'une jeune fille maure née dans une tribu de chasseurs-cueilleurs de Mauritanie à la fin des années 30 et qui vit aujourd'hui à Paris. Dernier exemple, Les enfants des nuages, dont il est question aujourd'hui, réédition, édition Thierry Marchès, c'est l'histoire d'une jeune fille inexpérimentée qui s'enfonce dans le désert mauritanien à la recherche des grands nomades Rgebat, les enfants des nuages, et qui finira par y trouver des guerrilleros. Le podcast de cette émission est à retrouver sur notre site radiocampustour.com. Vous y trouverez également des liens vers les articles scientifiques de Sophie Caratini sur les Sahraouis.
J'ai écrit ce livre pour la première fois en changeant les noms. Il est sorti, je crois, en 91 ou 93, aux éditions du Seuil, et qui m'en avait coupé 300 pages. Donc là, c'est la version complète qui a été, et en plus repensée, réécrite en partie, qui est donnée aujourd'hui. Et en plus, avec les vrais noms des gens et tout un système de notes pour expliquer qui c'était, qu'est-ce qu'il est devenu, parce que j'ai rencontré en plein désert, parce que je suis tombée malade et qu'il y a un groupe de Sahraouis guerrieros, pour le coup, armés, bottés, enfin, pas sans bottes, mais bon, qui sont venus, qui passaient dans ce campement parce que c'était des membres de sa famille. Une personne qui est devenue le président de la République arabe sahraoui démocratique et qui est mort il y a quelques années et qui est resté président en plus de 40 ans. J'ai rencontré à Nouakchott le fondateur du Front Polisario qui allait être tué dans une attaque à Nouakchott 4 ans après, pendant la guerre. Bon, si vous voulez, j'ai rencontré vraiment des gens qui ont joué un rôle important dans cette histoire, et qui donc, c'est en ce sens que cette deuxième publication a plutôt une dimension dans mon esprit de témoignage d'un moment de l'histoire essentiel pour cette région. Mais pourquoi au départ j'avais écrit ce livre dans les années 90? C'est parce que quand je suis rentré de plusieurs terrains et avec la guerre et tout ça, bon, j'ai bien vu que ce serait un peu difficile, et puis ça avait été effectivement assez éprouvant de travailler dans ces conditions. Et je me suis arrêté quelque temps et j'ai trouvé du travail à l'Institut du monde arabe où j'ai été responsable de la section d'ethnologie du musée pendant 7 ans. Et pendant ce temps, on m'avait demandé de monter une équipe, de réfléchir à des projets d'exposition temporaire sur le monde arabe en général, donc une équipe d'anthropologues qui avait travaillé sur d'autres régions du monde arabe. Et nous avons réfléchi et conçu tout un projet pendant quelques années avec cet objectif, s'adresser au grand public, c'est-à-dire à tout le monde, sachant que ils considèrent que le grand public, c'est un adolescent. Il faut être compris, il faut que ce qu'on expose soit potentiellement immédiatement compris par un enfant de bonne famille qui a eu une bonne éducation et qui a 14-15 ans. C'est ce qu'on nous disait à l'époque. Maintenant, je ne sais pas si on dirait toujours 14-15 ans. Je dis de bonne famille, je parle uniquement au niveau culturel. Je ne parle pas au niveau économique, mais souvent ça va ensemble, mais pas forcément. Il y a plein de fauchés qui sont des gens qui ont un certain bagage, disons, d'éducation scolaire, disons. Et le mot d'ordre, c'était donner une autre image du monde arabe, précisément parce que on en était encore rester un petit peu au colonial, post-colonial, et qu'on avait trouvé plein de pétrole, et qu'ils avaient monté cet institut pour essayer de revaloriser l'image du monde arabe officiellement vis-à-vis des Arabes avec lesquels on voulait faire des affaires. Vous savez, ça ne change pas, hein. Les époques tournent, mais on est toujours dans les mêmes objectifs, malheureusement. Et donc, il s'agissait de faire changer le regard. Et donc d'expliquer des choses relativement simples, mais un peu en profondeur, qui amèneraient le public français moyen, comme on dit, donc un peu monsieur tout le monde, à se dire, finalement, c'est intéressant quand même. Et donc, il y a eu la guerre du Golfe, il y a eu des présidents qui se sont succédés, puis un qui a décidé, oh non, on va supprimer l'ethnologie parce que c'est dangereux. Ça dérange. C'est une discipline qui dérange, parce qu'elle dit des choses que les politiciens n'ont pas toujours envie de dire. Donc, ils ont viré tout le monde et ils ont mis tous les travaux qu'on avait préparés, qui devaient être mis en œuvre, à la poubelle. Donc, on est un peu frustrés quand même, quand on a travaillé pendant des années, dans l'enthousiasme, avec des gens formidables, pour essayer de toucher. Justement, parce que c'est aussi une des vocations de l'anthropologie en tant que discipline, et c'est pour ça que c'est important d'écrire et de savoir écrire pour tout le monde. C'est d'être ce que Jacques Berck disait très joliment, être le passeur des deux rives, c'est-à-dire de transmettre quelque chose de l'ordre de la connaissance, et qu'il soit de la connaissance, hein, c'est-à-dire qu'il ne soit pas ni du journalisme, ni du scientisme incompréhensible. Donc, en fait, cette frustration, elle s'est traduite par une envie de faire avec ce qui me restait, à savoir mon crayon et mon papier, et puis d'écrire. Et donc, si vous voulez, j'ai écrit ce livre en reprenant mon journal de voyage, sans le relire d'ailleurs, chapitre par chapitre, pour que chapitre par chapitre, au fur et à mesure que je l'écrivais, ça fait travailler la mémoire, hein. C'est une maïeutique, c'est une auto-maïeutique, si vous voulez, pour prendre le lecteur au niveau zéro de la connaissance auquel j'étais quand je suis parti en Mauritanie à l'âge de 25 ans, et comment tout au cours de ce voyage, il va découvrir avec moi, en suivant mon périple, ce que je découvre au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est un récit, puis en même temps il y a des éclaircissements, je dirais pas des analyses, parce que ça presse avant, ça fait peur à tout le monde, mais c'est pas le mot, mais en même temps il y en a au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré, et d'arriver à la fois à faire quelque chose qui soit lisible par tout le monde et qui amène au bout du livre à peut-être avoir une autre image de ces Arabes dont on parle tant et qu'on connaît si mal.
Et alors, ce livre, qu'en pensent les 10 Arabes ? Est-ce qu'ils l'ont lu ? Est-ce qu'ils vous ont fait des retours ? Qu'est-ce qu'on en pense de ce livre, que ce soit en Mauritanie ou au Maroc ?
Je n'aurai qu'une réponse, et je pense qu'elle est suffisamment claire. Quand il a été question de republier ce livre, Bon, faut vous dire que j'ai publié ce livre au Seuil chez un éditeur formidable qui s'appelle Thierry Marchès, parce que les grandes maisons d'édition, vous n'avez pas qu'une seule personne. Hein. Vous avez, en fonction des secteurs, vous avez plusieurs personnes. C'était le responsable des collections sciences humaines. Et puis, quelques années plus tard, le Seuil a été racheté par des marchands de soupe, comme pas mal d'éditeurs, malheureusement. Et les grands éditeurs sont partis. Et il en est parti. Et quelques années encore après, il a fondé sa propre maison d'édition. Donc c'était avec lui que j'avais travaillé Les Enfants des Nuages, première version. Et Dieu sait si on avait travaillé, parce que c'est un éditeur avec lequel on peut discuter d'une virgule, vous comprenez. Ça n'a rien à voir avec l'Harmattan, Cartala et compagnie, qui ne sont que des imprimeurs. Il m'avait dit, donc, de toute façon, j'ai publié d'autres livres dans sa nouvelle maison d'édition, qui s'appelle Les Éditions Thierry Marchès, dont d'ailleurs Les Non-dits de l'anthropologie, dont l'histoire de cette femme qui s'appelle, que j'ai intitulée La fille du chasseur, la cousine, la fameuse cousine qui était à Belleville. Et il m'a dit, bon, moi je veux avoir tous tes ouvrages, donc on va reprendre nos droits. Là. J'ai repris les droits au Seuil pour pouvoir le republier. Et il m'a dit, on va faire une édition numérique. Et dans une édition numérique, j'ai dit, j'aimerais bien reprendre le manuscrit original, parce que vous m'aviez quand même fait couper 300 pages. Ce n'était pas lui qui m'avait fait couper ça, c'était le comité de lecture qui avait trouvé que c'était trop gros, que ce n'était pas vendable parce que c'était trop gros. Bref, il m'a dit, écoute, dans une édition numérique, tu es limité par rien au niveau des pages, parce que c'est le même prix. Donc fais ce que tu veux. Et là-dessus, le confinement est arrivé. Alors ça a été formidable, je me suis enfermé chez moi avec... Les Enfants des Nuages, premier volume, plus mon manuscrit que j'ai retrouvé. Et j'ai pu tranquillement faire absolument ce que je voulais, mais je suis arrivé à un ouvrage qui faisait, je ne sais pas combien il fait de pages, 500 ou 600, et 500 et quelques, je crois. Et là, il m'a dit, c'est dommage quand même de ne le pas tirer en papier. Ben, j'ai dit, ben oui, c'est dommage. Il m'a dit, mais moi, je ne peux pas, parce que je ne peux pas être subventionné. D'habitude, j'ai des subventions, mais là, c'est du Centre National du Livre. Même là, c'est une republication, donc comment on peut faire? Eh bien, j'ai fait appel à la tribu. Vous me demandiez comment les Mauritaniens avaient réagi. Eh bien, ils se sont cotisés de manière à pouvoir envoyer à mon éditeur Thierry Marchès les quelques milliers d'euros qui lui manquaient pour pouvoir le tirer sur papier. Donc je pense que ça dit tout.
Est-ce qu'on le trouve dans les bibliothèques universitaires, Les Enfants des Nuages?
Ben écoutez, c'est sorti il y a peu de temps, hein, je crois en juillet dernier, enfin cet été. Donc c'est partout, il paraît que même que c'est à la FNAC, à la FNAC bien sûr. C'est dans toutes les librairies, c'est sur Internet chez Amazon pour ceux qui achètent leurs livres de loin. Je sais, il ne faut pas le dire, ce n'est pas bien, mais moi je le fais parce que c'est plus pratique. Et on le trouve également, il paraît même que c'était chez Leclerc. Je ne sais pas, je ne suis pas allée voir. C'est absolument facile à trouver.
Mais comme document, disons, pour des étudiants, enfin, des aspirants ethnologues, du coup, est-ce que c'est un ouvrage peut-être qu'on peut espérer voir dans les bibliographies, dans les conseils
Les non-dits de l'anthropologie le sont déjà. Celui-là, je ne sais pas. Vous savez, l'anthropologie est une discipline qui est fort peu représentée. À Tours, on doit être 3 anthropologues, et encore, je ne suis même pas sûre, on n'est peut-être plus que 2. Il y a un département de sociaux avec un petit peu d'anthropologie, mais je crois que... Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants en anthropologie à Tours, mais ça va au-delà, si vous voulez. Ça peut être lu par qui s'intéresse au monde arabe, qui s'intéresse à la Mauritanie, qui s'intéresse à la relation, à l'interculturalité... Et puis, pour toute enquête qui nécessite de se décentrer, parce que finalement, ça amène à se décentrer. On finit un peu schizophrène, mais c'est une grande richesse. Et puis, ça se lit comme un roman aussi, c'est l'aventure d'une jeune fille qui est partie dans le désert. Hein. Donc, on peut le voir de différentes façons.
Alors peut-être que les journalistes en tireraient profit de la lecture de cet ouvrage.
Pourquoi les journalistes en tireraient profit?
Sur l'idée de se décentrer, peut-être, sur quand on veut écrire un papier ou des contenus ou des reportages sur tel public, telle population, peut-être de voir une approche comme celle-là.
Ben, pour ceux qui, les journalistes qui s'intéressent à la Mauritanie en tireraient sans doute profit, mais les journalistes en général, je ne sais pas, tout dépend comment ils travaillent, mais moi personnellement, à chaque fois que j'ai vraiment connu un peu des choses un peu en profondeur sur un sujet et que j'ai lu les articles des journalistes, j'ai eu envie de les baffer. Donc je ne suis pas sûre que les journalistes aient le temps ou prennent le temps d'aller en profondeur dans les choses dont ils parlent. C'est une vraie question. Mais c'est sûr qu'une approche en profondeur qui demande tant de temps, ben c'est pas donné à tout le monde.
Et alors, je crois que vous avez eu la chance dans votre parcours d'être une des rares personnes à pouvoir entrer au CNRS. Donc c'est aussi une chance peut-être incroyable.
Alors, une rare personne, oui, dans la mesure où les postes sont rares. C'est plutôt ça. Effectivement, quand je me suis présentée au CNRS, il y avait en moyenne 300 candidats en anthropologie pour un poste. Donc le challenge était difficile et il faut s'y reprendre en général plusieurs fois et être un peu tenace pour finir par y entrer. Mais quand on vous téléphone en vous disant que c'est passé, effectivement, on a l'impression d'être absolument chanceux.
Et donc là, vous vous apprêtez justement à repartir, si la SNCF le veut, en Mauritanie. Qu'est-ce que vous allez faire alors, si vous voulez nous le dire ?
Maintenant, j'ai un grand âge, donc je ne m'en vais plus dans les brousses pour faire des enquêtes de terrain. J'ai, avec des collègues mauritaniens et puis certains de l'université de Tours, réfléchi depuis des années et conçu un projet de bibliothèque virtuelle qui pourrait permettre aux étudiants de l'université de Nouakchott et puis à tous ceux qui s'intéressent à ce pays de pouvoir consulter les sources d'archives sans avoir besoin de trouver de l'argent pour se déplacer. Parce que même un Tourangeau, s'il doit aller dépouiller les archives d'Aix-en-Provence, c'est un problème quasiment impossible à résoudre, compte tenu, ou alors avec une tente de camping à la belle saison, et encore, c'est pas sûr. Alors vous imaginez, pour les étudiants africains, auxquels de toute façon on refuse 9 fois sur 10 le visa, et qui n'ont absolument pas les moyens. Si vous voulez, moi, quand je suis arrivée en Mauritanie pour la première fois, lors de ce séjour que je raconte dans ce livre, il n'y avait en Mauritanie qu'un lycée, il n'y avait pas d'université. Maintenant, il y a une université, il y a des chercheurs, il y a des gens compétents et qui ont tout à fait les possibilités et les envies d'aller approfondir leurs travaux en ayant accès aux sources, et ils n'ont pas accès aux sources. Alors dans la mesure où la France, en tout cas pour la France, a déjà prévu le budget de la numérisation de toutes ces sources d'archives, mais que quand vous allez voir les directeurs d'archives, ils vous disent on en a pour 50 ans, mais on est toujours preneur d'un projet qui nous permettrait de mettre dans notre planning de numérisation des sources qui vont être utilisées, parce qu'autant que ce qu'on fait serve. Donc j'ai les accords de tout le monde, au nord et au sud, et puis les financements sont difficiles à trouver, mais le gouvernement mauritanien tient à ce projet, et donc il n'est pas impossible qu'on arrive à trouver quand même le moyen de pouvoir le réaliser. Donc là, je vais dans l'objectif d'essayer de faire avancer ce projet pour lequel je me bats depuis des années.
Ben, merci à vous, Sophie Caratini, d'être venue jusqu'à Radio Campus Tours pour parler de cet ouvrage, Les enfants des nuages, donc à retrouver aux éditions Thierry Marchès. Pour cette émission, je remercie Adeline View à la Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire et Sophie Caratini. Bonne journée à tous à l'écoute de nos programmes.